François Bernard.
Bonjour, bonsoir. Merci de nous accueillir pour cette nouvelle édition de C'est pas du vent. Dans notre reportage tout à l'heure, nous retournerons sur le grand fleuve Niger où pêcheurs traditionnels constatent depuis plusieurs années une baisse de la ressource en poissons. Alors comment faire pour enrayer le phénomène? Notre reporter Agnès Rougier est allée voir sur place comment s'organisent les pêcheurs, donc riverains, pour poursuivre leur activité.
Il faut faire avec aussi les changements climatiques, avec la dégradation générale de l'environnement, qui fait que les anciennes pratiques ne peuvent pas être conservées, au risque de détruire pratiquement tout le patrimoine qu'on a conservé jusque-là. Donc, il est clair qu'à ce niveau, il fallait des pratiques nouvelles, des pratiques innovantes, et qui sont de nature à pouvoir moins dégrader, pouvoir conserver la faune sauvage, et à satisfaire, sur le plan alimentaire notamment, les populations.
Rendez-vous dans une vingtaine de minutes, juste avant de retrouver TerraTech et Dominique Dezonnet. Il sera aujourd'hui question de téléprésence immersive, qui pour faire simple est un nouveau système de visioconférence. Tout de suite, je vous présente notre invité Guy Reynaud, qui est le président de Pro Natura International. Merci de nous rejoindre en direct sur RFI. Bonjour. Alors, Pro Natura se mobilise, Monsieur Reynaud, pour aider à résoudre les problèmes socio-économiques, environnementaux qui affectent les communautés rurales dans les pays en développement. On aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie de cette émission. Avec vous, tout de suite, on passe en revue l'actualité environnementale de ce mardi. Avec dans le quotidien Le Monde d'aujourd'hui, ce grand titre à la une, la Chine à la conquête des sources d'énergie. Les groupes chinois, nous dit le journal, multiplient les achats à l'étranger de pétrole, de charbon, d'uranium. En plus, on l'apprenait il y a quelques jours, de l'investissement massif dans l'énergie solaire qui concurrence les Allemands, qui sont leaders dans le domaine. Alors, la Chine, géant énergétique de demain?
Oui, la Chine est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Il a dépassé les États-Unis. La Chine construit une nouvelle station de production d'électricité au charbon toutes les semaines. Ça paraît absolument dramatique en matière d'effets sur les changements climatiques. Il se trouve que la situation n'est pas aussi terrible qu'on peut imaginer, dans la mesure où, d'une part, les Chinois sont les premiers qui vont souffrir et qui souffrent déjà des changements climatiques par l'augmentation de la surface des déserts, en particulier des aires du Gobi, et par l'assèchement des rivières qui leur permettent justement de produire l'électricité. Parce que pour produire l'électricité, il faut de l'eau. On oublie ça, il faut refroidir, il faut faire de la vapeur, etc. Et donc leurs rivières vont s'assécher avec la disparition des glaciers de la chaîne himalayenne. Donc la Chine, c'est pas des fous. Ils sont sur un cheval fougueux. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est que les jockeys qui sont sur les chevaux fougueux sont des ingénieurs qui voient les dégâts, qui prévoient et qui ont des capacités technologiques pour faire évoluer le système vers, alors vers quoi? Vers bien sûr de l'énergie solaire, puisqu'ils veulent être les leaders mondiaux de l'énergie solaire, et vers des économies d'énergie, de la biomasse, etc. Ça prendra du temps. Et entre-temps, ils vont être amenés certainement à pousser avec les Américains à la reforestation de la planète et au développement du biochar pour absorber une bonne partie de ce carbone en excès dans l'atmosphère.
La Chine, où des centaines de villageois ont envahi une fonderie, c'était au nord du pays, qui était mise en cause par l'intoxication au plomb de 600 enfants. Mauvaise humeur, donc, casse avant d'être dispersée par la police, cette foule. La Chine à la pointe du renouveau énergétique, donc, mais aussi en train manifestement en matière de sécurité environnementale.
En matière de sécurité environnementale, la Chine est vraiment très mauvaise et elle ne va pas s'améliorer. La vie humaine coûte pas cher en Chine, comme vous savez. Ils sont nombreux. Donc les Chinois vont se concentrent déjà sur les grands problèmes qui sont essentiellement les problèmes de changement climatique. Et ils ont comme conseiller stratégique au plus haut niveau Maurice Strong, qui a été à l'origine de la conférence de Stockholm, de la conférence de Rio, qui est le père du développement durable. Et c'est pas pour rien que le père du développement durable a été recruté par les instances suprêmes chinoises pour les conseiller, mais ils ne vont pas, ils vont laisser la pollution au mercure, au truc, machin. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions, ils ne peuvent pas tout faire.
Dans un premier temps, en tout cas. La presse qui évoque aussi la semaine mondiale de l'eau. Ça se passe du 16 au 22 août. Elle se poursuit donc à Stockholm, en Suède, avec la publication d'un rapport qui affirme l'urgence d'une réforme en Asie qui doit améliorer, dit le rapport, la gestion des terres actuellement irriguées ou se résoudre à dépendre de l'importation de céréales d'autres régions. J'ai interrogé ce matin le docteur Ilmi Salist, un spécialiste sud-africain de la gestion de l'eau, sur ce rapport. Il est en ligne de Stockholm. Écoutez ce qu'il en dit.
Si on regarde un peu le parcours passé, 40 à 50 années passées en Asie, avec la révolution dite la révolution verte, il y a eu beaucoup de progrès et dans la production alimentaire, donc subvenir aux besoins des personnes. Et ça a été fait grâce plus particulièrement à une expansion de l'agriculture irriguée. Et bien entendu avec l'introduction des variétés améliorées et l'utilisation des engrais. Cependant, on se rend compte que les possibilités d'un peu poursuivre ce même trajectoire de développement, dite expansion des terres irriguées, étant donné les autres demandes des secteurs comme les industries, l'eau domestique, etc. Donc, il est peu possible de suivre ce même trajectoire de développement. Donc, il faut penser autrement.
Alors, comment faire pour améliorer justement la gestion de l'eau dans la région? Quelles recommandations sont contenues dans ce rapport?
Donc, le rapport, en fait, il y a disons, 5 faisceaux de recommandations. Donc, d'abord, comment faire en sorte qu'on améliore la productivité des systèmes et des aménagements existants, qui consistera en modernisant, en recalibrant un peu les infrastructures existantes. Deuxièmement, intégrer les connaissances et les bonnes pratiques des agriculteurs eux-mêmes, promouvoir des réformes institutionnelles et politiques dans le secteur de l'eau, par exemple la participation du secteur privé, amélioration aux accès de marché et des crédits, renforcement des capacités et connaissances de tous les acteurs du secteur agricole, allant du paysan, de l'agriculture jusqu'au gestionnaire, et aussi pour moi des investissements dans les secteurs connexes susceptibles d'avoir un impact positif en irrigation, comme le commerce, des infrastructures routières, etc.
Le docteur Ilmi Sali a interrogé ce matin en ligne de Stockholm. Guy Reynaud, l'eau, un enjeu de plus en plus crucial manifestement.
C'est un enjeu capital, et pour revenir au changement climatique, pardon pour le dada, l'eau en Asie va manquer cruellement parce que une bonne partie de l'eau vient de glaciers qui vont disparaître. Donc pendant une bonne partie de l'année, peut-être jusqu'à la moitié de l'année, les rivières seront à sec, et l'autre partie de l'année, les rivières vont être en crue. Donc entre le déficit et l'excès d'eau, ça va être très très difficile de s'organiser. Il y a des méthodes, on peut économiser l'eau, et entre autres le biochar, on en parlera tout à l'heure je pense, c'est une façon d'économiser pour la production de légumes jusqu'à 90% de l'eau nécessaire pour l'agriculture. Donc il y a des techniques tout à fait nouvelles, tout à fait innovantes, mais accessibles au tiers-monde. Et puis il y a des efforts intellectuels d'éviter le gaspillage. On gaspille l'eau autant qu'on gaspille l'énergie sur la planète à l'heure actuelle.
On y reviendra, vous avez raison, en deuxième partie de cet entretien. On poursuit notre petit coup d'œil sur l'actualité du jour avec le fonds pour l'Amazonie créé par le gouvernement brésilien pour collecter des dons du monde entier en faveur donc de la protection de la forêt amazonienne, qui pourra désormais financer des projets élaborés par des entreprises privées et non plus seulement par des ONG. Alors d'accord ou pas?
Oui, il y a projet, hein. Ce que je veux dire, si les entreprises privées veulent faire des plantations industrielles, c'est certainement la mauvaise idée. Si les entreprises privées veulent imiter ce que les ONG comme nous font, c'est-à-dire de l'agroforesterie et de la régénération de forêts à haute biodiversité, oui. Je citerai l'exemple de Peugeot, qui a été le premier investisseur dans ce domaine, et le seul grand projet de reforestation, disons recréant la biodiversité, a été fait par mon association, financé par Peugeot, sur 20 000 hectares au Mato Grosso.
On essaiera de revenir tout à l'heure d'ailleurs sur le sponsoring par des entreprises privées d'opérations concernant l'environnement dans un petit instant. Pour l'instant, c'est l'heure de notre pause musicale. Alors, on écoute un disque, on se retrouve juste après Guy Reynaud. Nous sommes en compagnie de Guy Reynaud, qui est le président de Pro Natura International. Comment vous définiriez, en résumé rapidement, l'action de votre ONG ?
Ben nous, on est une ONG spécialisée dans le développement rural, dans les zones particulièrement pauvres de la planète, dans les pays du Sud. Donc notre but, c'est le développement rural, c'est la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la malnutrition, le développement de l'économie locale avec des structures... Des structures participatives, mais on lit tout ce qu'on fait pour des raisons évidentes de stratégie à la conservation de la biodiversité. La biodiversité est nécessaire à court terme dans les pays du Sud, c'est nécessaire à long terme sur l'ensemble de la planète. Dans les pays du Sud, la biodiversité est essentielle à court terme, en particulier pour l'eau, parce que s'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'eau. Et les changements climatiques sont essentiels, puisque c'est les pays du Sud qui, d'une part, vont souffrir le plus et souffrent déjà le plus des changements climatiques. Et les pays du Sud sont un moyen de lutter intelligemment dans un cercle vertueux contre les changements climatiques en faisant du développement intelligent. Ça conserve la biodiversité et ça lutte contre les changements climatiques.
Alors justement, on va rentrer dans le concret, parce que parmi les actions que vous menez, il y a la création de ces super potagers capables de procurer, dites-vous, une alimentation équilibrée pour 10 personnes sur moins de 60 mètres carrés. Alors, parlez-nous de ces super potagers. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, les super potagers, c'est le fruit d'une combinaison, d'innovation, venant d'une part de chercheurs français qui ont créé la société JTS Semences il y a une quinzaine d'années et qui ont travaillé sur des semences améliorées pour les pays du Sud, permettant de produire tous les légumes possibles et imaginables dans les pays du Sud de façon optimale. Ils ont aussi développé des techniques de productivité agricole. agricole en réduisant la consommation d'eau et en n'utilisant pas d'engrais chimiques.
Vous les installez où, ces super potagers?
Nous-mêmes, Pronatura, nous avons amené le biochar. Et le biochar, c'est un produit miracle qui permet de doubler ou tripler la productivité de n'importe quelle production agricole, particulièrement dans les pays du Sud.
Qu'est-ce que c'est?
C'est du carbone végétal. À l'origine, c'est les Indiens précolombiens en Amazonie qui ont inventé ça. Ils prenaient du charbon de bois qui restait quand leur feu s'éteignait. Ils le pilaient, ils le mélangeaient à la terre où ils faisaient leur culture. Et là, ça, dans le contexte de l'Amazonie où les sols sont très pauvres, ça multipliait jusqu'à 9 la productivité du sol. Ça a été retrouvé récemment, essentiellement par des chercheurs américains, et c'est ProNatura qui est la première organisation non directement liée à de la recherche scientifique qui applique la technique du biochar.
Mais où?
Alors, on applique la technique du biochar pour l'instant au Sénégal. Mais on est en train de se développer dans un très grand nombre de pays, en particulier en Algérie, en Égypte, au Maroc, enfin au Nigeria, au Niger. C'est applicable absolument partout. Mais nos démonstrations à grande échelle, avec des vrais paysans, se passent pour l'instant au Sénégal.
Et les maraîchers à qui vous offrez, donc c'est des kits, hein, je crois, qui leur permettent d'installer ces super potagers. Ces maraîchers deviennent autonomes?
Alors, c'est pas des maraîchers, on s'adresse à des familles. Une famille moyenne, on considère qu'elle a 10 personnes. Au jour d'aujourd'hui, on peut promettre à une famille de 10 personnes sur 50 mètres carrés de se nourrir, de sortir de la malnutrition avec une nourriture parfaitement équilibrée et des productions tous les 45 jours, quel que soit le climat. Parce que dans ces régions-là, on sait très bien que pendant 3 mois, rien ne pousse, parce qu'il fait très très sec et il fait très chaud, il fait souvent 60 degrés, rien ne pousse, tandis qu'avec cette technique où on crée un microclimat sur les planches de culture, tous les 45 jours, on produit de façon très intensive et très régulière.
Il y a une véritable pérennité de ces jardins potagers, vous avez l'expérience sur la durée?
Il y a 20 ans de recherche faite en France et au Niger. Nous-mêmes, on a une année d'expérience. Et ce qui est sûr, c'est que ces techniques sont totalement, une fois qu'on a installé le potager, on l'a installé pour toujours. Je veux dire, c'est des techniques complètement qui ne s'usent pas. Simplement, il suffit de renouveler les graines tous les ans. Et le biochar, on le met une seule fois à l'implantation. C'est un catalyseur du sol qui remplace les fertilisants chimiques et qu'on met qu'une seule fois.
D'accord. J'ai vu que vous pratiquiez aussi, ou vous tentez de promouvoir en tout cas, l'agroforesterie. L'agroforesterie, ça combine la plantation d'arbres, c'est ça, et l'agriculture ou l'élevage?
Les trois dimensions, hein, les productions d'arbres pour du bois, production d'arbres pour des fruits, production de nourriture pour l'alimentation et pour les cultures de rente, et production d'animaux. Donc c'est ça. Et en fait, c'est l'agriculture traditionnelle. On n'a rien inventé. En Afrique, il y a 500 ans, ils faisaient de l'agroforesterie. Ça marchait très bien. Ça marchait bien parce qu'ils n'étaient pas trop nombreux. Maintenant, d'une part, il y a une pression démographique. Et d'autre part, il y a aussi des techniques des pays du Nord qui ont été implantés, qui sont complètement contraires à l'agroforesterie. Et donc, on en est à réintroduire l'agroforesterie traditionnelle et à l'optimiser.
En deux mots, l'arboglisseur que vous utilisez vraiment rapidement, parce que c'est la fin de cet entretien. Qu'est-ce que c'est?
L'arboglisseur, c'est un engin, l'équivalent du bathyscaphe pour aller dans les grandes profondeurs. La biodiversité est essentiellement dans les forêts tropicales, et dans les forêts tropicales, la biodiversité est essentiellement au sommet des arbres. Toute la vie est au sommet des arbres, et pour aller étudier la biodiversité de la planète, il faut aller au sommet des arbres, des forêts tropicales. Et c'est l'engin idéal pour aller travailler au sommet des arbres.
Ça donne envie. Guy Reynaud, président de ProNatura International, était l'invité de C'est pas du vent ce matin. Merci d'avoir partagé avec nous votre réflexion sur l'environnement. Bon courage, à bientôt. Notre reportage, juste après le journal sur RFI, dans 3 minutes.